Bienvenue dans l'oreille de Vénus. Je m'appelle Anso, j'aime Pictise et je suis la présidente de l'association Patriarchie.
Je m'appelle Pauline, j'aime la révolution et je suis la directrice de l'association Patriarchie.
C'est notre deuxième épisode
de notre nouvelle chronique. On vous propose une chronique mensuelle et féministe qui abordera des thématiques diverses et variées, du coq à l'âne comme
le tatouage,
les femmes dans le sport,
la mort,
la musique
ou la colère.
Saviez-vous que les Français, on est les champions d'Europe, voire même du monde, avec certains pays d'Amérique du Sud, de la manifestation?
Mais non.
Sommes-nous étonnés?
Pas du tout.
Très bien. C'est vrai que plus qu'ailleurs, en France, on défile dans la rue, on proteste et on lutte. Alors, pas par flemme, contrairement aux stéréotypes que l'on peut entendre, parce qu'il y a plein d'autres pays qui font plus la grève que nous. Oui, c'est possible.
Oui. D'ailleurs, la première grève a eu lieu au XIIIe siècle. Donc, c'était la grève 1229 à l'Université de Paris. Elle dura 2 ans.
Cocorico.
Cocorico. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va s'intéresser à la grève, enfin, plutôt à l'art de la manifestation, aujourd'hui.
Tout à fait. Mais l'art de la manifestation, qu'est-ce que c'est?
Eh ben,
très bonne question à laquelle je vais répondre à ma propre question. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à l'art de la manifestation, pas à l'art contestataire, des tableaux, comme Guernica, des choses qu'on a peut-être déjà vues. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les supports qui accompagnent les révoltes, qui sont parfois faits par des anonymes. En fait, c'est toutes les œuvres qui accompagnent des mouvements populaires. Et il faut dire qu'il y en a pas mal, et sous plein de formats différents. On connaît les affiches, les pancartes, les stickers.
Oui, comme les pochoirs aussi, les pins, les badges.
Il y a même des drapeaux, des gilets jaunes.
Des t-shirts, des filtres et des œillets.
Voire même des keffiyehs. Parce que c'est vrai que ce n'est pas des symboles aussi qui sont que des affiches, des images, ou même pas que visuelles, parce qu'il y a plein de manières de manifester, notamment à travers des chansons, des hymnes, des slogans.
Oui, mais pourquoi on manifeste ?
Excellente question à laquelle tu vas répondre toi-même.
Eh bien, on manifeste pour revendiquer son soutien, son appartenance à un courant, à un mouvement, à une idéologie. Et l'action concrète du militantisme et de l'activisme, c'est la manifestation. À savoir que la manifestation, c'est également l'implication de son temps, de son énergie, de ses finances, et c'est également une action qui fédère.
C'est vrai que ce qui nous intéresse, donc, c'est tous ces supports qui accompagnent ces manifestations, qui sont en fait un excellent moyen de faire passer un message. Alors, soit faire passer le message en donnant, par exemple, des tracts ou des affiches aux personnes pour qu'elles les utilisent pendant la manifestation. C'est une manière aussi de conserver le message aujourd'hui quand on retrouve des photos et des images d'archives de manifestations à travers les pancartes des personnes. Ça nous permet de mieux comprendre quelles étaient leurs revendications. Ça permet aussi de contrôler le message, justement en distribuant un message clair ou un slogan concis. Et ben, on garde un message qui lui aussi est clair. On évite aussi les dérives ou les réappropriations. Mais à l'inverse, ça peut être aussi une manière de proposer aux gens, parce que c'est des mouvements populaires, de s'approprier ce message. On l'a vu récemment avec des slogans du type « Je suis Charlie »,« Je suis la cathédrale » ou je ne sais pas quoi. Ça peut être aussi une manière de détourner ce message, justement, en réutilisant, par exemple, le logo ou les slogans de partis d'extrême droite,
exactement. Par exemple. Donc là, c'est le mélange du fond et de la forme. Mais dans cette chronique, on va plutôt s'intéresser à la forme. Donc, le slogan est la forme la plus courte de communication, avec des formes qu'on connaît, enfin, et des messages clairs. Donc, la forme du fond. Donc, c'est une évolution graphique en fonction des modes et techniques disponibles.
Et du coup, nous, on s'intéresse effectivement à la forme. Donc, on va étudier un peu ces pancartes et ces slogans comme on étudierait des œuvres d'art. On va s'intéresser à l'évolution graphique qui témoigne d'une époque, d'une mode et aussi de techniques qui sont disponibles. C'est vrai que tous ces hymnes et ces symboles sont des morceaux d'histoire, qu'elles soient populaires ou politiques. Et il faut savoir qu'il y a de nombreuses bibliothèques, des universités et même parfois des musées qui conservent ces pancartes, donc symboles quand même de leur importance historique.
Et si on réduit à la forme la plus pure, on obtient des symboles. Donc les symboles, c'est universel, il y en a plusieurs, et il y en a de différentes formes pour de différentes revendications. Et c'est d'ailleurs pour ça que certaines marques les utilisent sous forme de logo.
Oui, c'est vrai que c'est visuellement clair et on n'a pas besoin de tous parler la même langue ou partager une même culture pour comprendre un symbole.
Non. Et d'ailleurs, en exemple de symbole, on a le point levé. Donc, inventé dans les années 20 par le Parti communiste allemand, il devient rapidement le geste opposé au salut nazi. Il est également utilisé par les Black Panthers dans les années 60 et aussi dans le symbole féministe.
C'est vrai.
Il y a le symbole de paix.
Peace and love.
Donc, des hippies, créé en 1958 par Gerald Holtom. Donc, c'est un logo de campagne britannique, notamment connu pendant pour le désarmement nucléaire.
Oui, c'est ça. À la base, c'est pas vraiment un logo en fait de paix. C'est vraiment un logo d'une campagne politique en fait. Mais aujourd'hui, on l'utilise plus du tout comme ça. Il y a aussi, par exemple, le symbole anarchiste que tout le monde connaît, qui est un A rouge entouré d'un cercle, qu'on doit à Thomas Ibáñez et René Daras en avril 64, qui le publient dans le bulletin des jeunes libertaires à l'ensemble du mouvement anarchiste comme projet de signe de ralliement. Donc il y a vraiment cette volonté d'à travers un espèce de logo, un symbole, rallier des personnes autour d'une idée. Il faut savoir aussi qu'il existe un symbole anarcho-chrétien pour celles et ceux qui n'ont de maître que Jésus. C'est intéressant. Si on part un peu dans cette approche historique, pourquoi pas aller au fond du truc et vous proposer une brève histoire de l'art de la manifestation. On peut remonter avec ces messages politiques écrits aux Romains, donc la propagande n'est pas nouvelle. Un fait plus marquant, c'est en 1517 que Martin Luther a protesté, normal vu qu'il était protestant, directement contre l'Église. Il aurait cloué 95 thèses à la porte de l'Église de la Toussaint de Wittenberg en Allemagne, marquant ainsi le début du protestantisme, mais aussi l'utilisation de l'imprimerie à grande échelle pour impacter et entraîner un changement radical dans la société, chose qu'on connaît très bien aujourd'hui.
Et plus tard, lors de la Première Guerre mondiale, c'est l'arrivée des premières affiches de propagande. Donc, les affiches, je suis certaine que vous en avez vu dans vos cahiers d'histoire géo, peut-être en sixième. Et ces images de propagande deviennent un nouveau format de manifestation. Et aujourd'hui, on a l'exemple de Yes We Can, donc une œuvre créée par l'artiste Obey pour la campagne de Obama en 2008. Un format qui fonctionne vraiment bien. Et dans les années 30, avec les suffragettes pour le droit de vote aux femmes, on les retrouve avec des pancartes où le message est clair, simple, peint à la main, de noir et blanc, où là, on va à l'essentiel. La police d'écriture est simple.
Oui, on peut y lire des messages comme la Française doit voter ou Vote for Women en Angleterre. Et puis, dans les années 60, les pancartes deviennent plus diverses parce qu'effectivement, on n'est peut-être plus obligé de les peindre à la main, on a de nouvelles techniques d'impression. On a des techniques comme la sérigraphie, qui permet donc d'imprimer à la main de nombreuses copies d'une même image, qui arrivent au sein d'associations, d'organisations. On peut les préparer à l'avance et les distribuer sur place aux manifestants. Comme on l'a dit plus tôt, une bonne manière de contrôler le message, qui est énormément utilisé aujourd'hui par de nombreux partis ou mouvements qui manifestent. Et puis après, évidemment, on a l'arrivée de l'imprimante et du photocopieur. Et là, les gens peuvent même carrément faire leur propre pancarte.
D'ailleurs, en mai 68, il y a le slogan « Sous les pavés, la plage » qu'on peut retrouver tagué contre les murs, enfin sur les murs. Et il y avait entre 400 et 600 slogans et affiches qui ont été créés par les étudiants et professeurs des Beaux-Arts de Paris, lieu occupé pendant 46 jours. Donc la technique utilisée était la sérigraphie, donc comme tu as dit avant, donc ça permet d'imprimer de nombreuses copies à la main. Certaines copies ont été imprimées à plus de 5000 exemplaires, puis placardées dans les rues. Et en tout, il y a eu plus d'un million d'affiches produites en sérigraphie en 6 semaines. Donc la sérigraphie influence le style minimaliste et monochrome.
Oui, dû à un fait technique qu'on pouvait utiliser qu'une ou deux couleurs. On a des styles assez minimalistes. Alors qu'après, dans les années 70, peu de temps après, on a des slogans comme « Faites l'amour, pas la guerre »,« Flower power ». Les manifestations deviennent plus grandes et avec elles, amènent de nombreux points de vue différents et donc des pancartes différentes. On est en pleine guerre du Vietnam, libération aussi sexuelle, on voit un vrai changement des mentalités et des mœurs. Cette révolution sociétale, elle se reflète en fait dans les supports qui accompagnent les manifestations et donc dans les pancartes où on voit l'arrivée de décorations, de police chiadée, d'enluminures, des jeux de couleurs, des dessins et des motifs. Mmh. Donc quelque chose d'assez différent des pancartes noires et blancs des années 60.
On a l'exemple en 1980 avec le mouvement queer, donc la Gay Pride. En 1978, le drapeau arc-en-ciel apparaît. Il a été créé pour la Gay Pride de San Francisco par Gilbert Baker, un militant et graphiste qui devient symbole LGBTQI+.
Couleurs, les paillettes ou même du lamé, on est bien loin des affiches simples. Tout simplement parce que c'est des techniques qui sont accessibles avec de l'impression. On peut faire tout ce qu'on veut. Et puis maintenant, il y a le plastique, les paillettes, voilà, plein de nouvelles technologies.
Mmh. En 1987, avec Silence is Death, il y a des affiches qui interpellent la crise du sida. Donc, sur les affiches, on peut retrouver un triangle rose des nazis pour désigner les homosexuels repris par la communauté LGBTQI+. Et avec l'arrivée du numérique, des ordinateurs et Internet.
Il y a un peu tout qui va changer à partir de là, c'est sûr. Mmh. Du coup, on l'a vu, ces symboles, ils accompagnent des manifestations. Et ces manifestations accompagnent des luttes qui sont souvent pour le droit des personnes. D'ailleurs, ces dernières années, on a vu de nombreux mouvements assez médiatisés contre, par exemple, les violences faites aux personnes noires, des violences systémiques, pas mal de choses notables qui ont été mis en avant et qui ont mérité des manifestations. Mais ces mouvements-là, ils sont pas récents, ni issus, comme on peut parfois l'entendre, d'une culture woke.
Mmh. On a par exemple le mouvement des luttes pour les droits civiques des personnes noires. Et je commence par le coupé-tête boulé-caille, en français du créole haïtien découper les têtes, brûler les cases ou les maisons. Donc c'est une expression devenue un slogan dit par Jean-Jacques Dessalines, un esclavagisé affranchi haïtien de l'île de Saint-Domingue, qui deviendra plus tard lieutenant lors de la révolution haïtienne qui se terminera par la proclamation de l'indépendance d'Haïti, faisant de ce petit pays en 1804 la première république noire.
Après, bon, on avance en 1960 avec du coup les mouvements de droits civiques aux États-Unis, notamment pour les droits civiques des personnes noires, pour la fin de l'apartheid, etc. Et on voit arriver ces pancartes et ce slogan noir sur blanc très simple « I am a man ». C'est dans sa simplicité, on peut aussi retrouver un parallèle avec le discours de Martin Luther King, I have a dream, son discours d'anthologie qui encore aujourd'hui reste un fort symbole.
Mmh.
Dans les années 70, on a l'arrivée... Ah non, c'était toi. Puis dans les années 70, on a l'arrivée des Black Panthers avec leur slogan Black Power et la reprise du logo effectivement du point serré noir qu'on a vu qui a fait son apparition dans les années 20 en Allemagne, qui on a utilisé pas mal aussi lors de protestations des JO de 68 contre la ségrégation et l'apartheid. C'est un logo qu'on voit revenir plus récemment avec le mouvement Black Lives Matter qui reprend ce point fermé sur fond noir. Avec, pareil, un message clair, une police simple, et donc pas mal de références à cet héritage de manifestation.
Et pour rebondir sur Black Lives Matter, donc c'est un mouvement qui est apparu en 2013, et aussi on peut parler de Say Her Name. Donc, pour lutter contre l'invisibilisation des affaires concernant les femmes afro-américaines victimes de violences policières. Donc, Black Lives Matter et Say Her Name sont des mouvements sociaux et politiques qui luttent contre le racisme systémique et les violences policières envers la communauté noire aux États-Unis. De nombreux supports et médiums différents sont utilisés. Par exemple, des musiques, des featuring, j'ai pas de titre en tête, et des films aussi. Et d'ailleurs, la vente de cartons en mousse a augmenté de 42% avant la marche des femmes en mars en 2016.
T'as oublié un truc. Tu dis ça avant de dire ça, sinon ça n'a pas de sens.
Ah oui, c'est vrai, chacun.
Attends, bah, reprends peut-être depuis le début. Ouais. Parce que tu peux dire que Say Her Name, c'est le slogan de Black Lives Matter. C'est un de leurs slogans.
Pour moi, c'est à part. Parce que Black Lives Matter,
oui,
c'est tout
le monde.
Ok, tu peux
dire que c'est un... Ouais, ok. Un des slogans qui va avec ce mouvement, quoi, on va dire.
Qui l'accompagne, ouais. Mm. D'ailleurs, en 2013, enfin, pour rebondir sur Black Lives Matter, qui est un mouvement qui a été inventé en 2013, un mouvement qui est apparu en 2013, on a l'autre mouvement qui l'accompagne, c'est Her Name, qui est utilisé pour lutter contre l'invisibilisation des affaires concernant les femmes afro-américaines victimes de violences policières. Donc ces deux mouvements sont des mouvements sociaux et politiques qui luttent contre le racisme systémique et les violences policières envers la communauté noire aux États-Unis. De nombreux supports et médiums différents sont utilisés. Chacun crée sa propre pancarte, de son côté ou en groupe. D'ailleurs, la vente de carton mousse a augmenté de 42% avant la marche des femmes de mars en 2016. Et Patriarchie propose chaque année un atelier de fabrication de pancartes pour le 8 mars, journée de lutte pour les droits des femmes.
C'est vrai, avec notre association, chaque année, on propose un atelier pour fabriquer les pancartes pour la manif et aussi voilà, parler un peu justement de manifestation, notre sport préféré en France. Donc pensez à vous abonner à notre newsletter ou à nous suivre sur les réseaux Patriarchie Magazine sur Instagram pour participer à celui de cette année. Effectivement, on a vu avec l'arrivée des réseaux sociaux et d'Internet de nombreux slogans, des reprises, des détournements, des additions de références pop culture. On en fait des mimes, des hashtags, des filtres, un ton qui est parfois humoristique, voire satirique, pour dénoncer. On l'a vu notamment avec des mouvements récents comme Black Lives Matter. Mais voilà, c'est vrai que c'est une nouveauté de par cette, cette technologie qui nous permet de créer même des vidéos... ou simplement, nous, de réagir et de poster un avis très personnel, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont assez nouvelles. Voilà. On n'avait pas vraiment de fin, on n'a pas prévu de fin pour ça. Et après, notre quiz, là. On aurait dû mieux prévoir.
Ben, au pire, on dit qu'on les laisse avec le son de la rue.
Mais attends, il faut qu'on fasse les petites questions. Pour terminer, chère Sophie, je vous propose... un petit jeu. On peut même jouer peut-être. Bah ouais, parce qu'on a fait plein de pauses là.
Ouais, j'ai bugué.
Ouais, on a fait des pauses. Tu joues au jeu avec nous, Sana ? Bah, de toute façon, on a les réponses. Donc,
ouais, je joue avec vous. Si ce n'est pas des questions difficiles, il n'y a pas de souci. Allez-y.
Allez. Bon, on fait un chacun ?
On fait un chacun. Attends. C'est où le marquage ? Là, c'est 1. Là, c'est 2.
Là, non, il y a 1, 2, 3, 4.
Mais j'ai pas lu les autres.
Toi, aujourd'hui, là.
Ah, attention. Je suis fatiguée. Mais j'ai travaillé avec mon manteau toute la journée.
Je suis fatiguée. Ok. Pour terminer cette incroyable chronique, on vous propose un petit jeu. Et si on joue ensemble ? Si tu joues avec nous, Sana ?
Oui, je suis sûre là.
Oui.
Ah, toujours chaud, Sana. Quand il faut jouer. Hein.
Et c'est quoi le jeu ?
C'est le jeu des slogans. Ah, on va te donner un slogan.
Ok.
Et tu vas devoir. Deviner
qui a deviner.
Dit. Deviner qui a dit quoi.
Là. Ok.
Alors, qui a dit touche pas à mon pote ?
Avant Hanouna.
Qui l'a repris ?
Ça, malheureusement. Il y a quelqu'un qui l'a dit, mais c'était en Afrique. Parce que j'ai entendu ça avant 2016.
Ah, bah oui.
Touche pas à ma nationalité, donc touche pas à mon pote, et c'est venu comme ça. Bon, je sais pas qui l'a dit en France.
Tu as la réponse, Pauline ?
Moi, j'ai la réponse, Sophie, mais parce que j'ai toutes les réponses sous les yeux, je triche complètement à ce jeu, c'est pas grave. Eh bien, parce que c'était le slogan officiel et le logo avec la main jaune de SOS Racisme depuis 1985, qui ensuite a été lâchement repris par Cyril Hanouna pour son émission « Touche pas à mon poste », qui est quand même un peu scandaleux.
Tricheur.
Ensuite, qui a dit « Ni pute, ni soumise »
Brigitte Bardot? Non.
Oh mon Dieu.
Je suis pas sûre.
Non, c'est...
Non, j'ai oublié.
Le sais-tu, Sophie?
Moi, je le sais, parce que j'ai également des réponses.
Attends, alors, moi aussi, je vais aller tricher là sur Internet.
Mais non, pas du tout.
Ah, si.
T'as pas le droit, t'as pas le droit. Pas le droit à Google.
Donc, c'est l'association homonyme qui a été créée en 2003.
Ni pute ni soumise, tu vois. Oui, la réponse était dans la question, c'était pour tricher, Sana, t'aurais pu l'avoir. Qui a trouvé Je suis Charlie? On connaît Je suis Charlie, mais qui c'est qui a trouvé ce truc-là, ce slogan?
Très je intéressant, mais là, vraiment, ma culture générale, là, elle est trop
T'inquiète.
Basse.
T'inquiète, personne ne connaît. Hein. Je peux t'aider, je peux te souffler
c'est
la réponse.
C'est vrai qu'on peut te donner les réponses, tu veux les réponses? Comme ça, tu peux faire semblant.
Donc, Je suis Charlie a été conçu par le directeur artistique français Joachim Ronsin.
Donc, un gars pas connu. Donc, pas connu. Ça va. Par contre, un fun, en plus ici sur News FM, bastion de la musique populaire, hein, qui a dit « Police partout, justice nulle part ». Qui reste un très bon slogan.
Justice nulle part.
Ah ouais, c'est dit par quelqu'un qui est toujours... C'est dit par un politique, une politique, c'est quoi?
Non.
Non.
Mais c'est étonnant.
Un écrivain.
Par un écrivain.
Qui est mort. Ça fait un bail.
Ah ouais, mais...
Ouais.
Avant Charlie, l'histoire de Charlie Hebdo?
Ah ouais, large. Sophie, as-tu la réponse pour
J'ai
Sana?
J'ai la réponse. Eh bien, c'est Victor Hugo qui l'a dit. En 1851, il a prononcé ces mots.
Intéressant.
Il a dit « Ce gouvernement, je le caractérise d'un mot, la police partout, la justice nulle part », pendant un débat contre une loi limitant la liberté de la presse alors qu'il était représentant de la Seine. Mmh. Un banger, quoi. C'est vrai que ça reste...
Ouais, j'avoue.
Ça reste pas mal.
Qui a dit Pauline ou Sana « Nous passaran » ?«
Nous passaran » Yasser Arafat ? Non.
Qui a dit ou qu'est-ce que c'est plutôt ? Attends, je vais t'aider. Que représente le symbole No Pasaran?
No Pasaran, déjà, c'est quoi? C'est quoi comme langue?
C'est l'espagnol. Ça veut dire ils ne passeront pas. Et non, ça ne vient pas du Seigneur des Anneaux. Mais on triche avec Sana parce que nous, on a les réponses pas à lui. Donc, c'est pour ça qu'on se sentir supérieur. On le regarde et là-bas, alors Sana, tu ne connais pas.
Non, je ne connais pas là.
Mais eh bien, c'est un symbole de la résistance antifasciste.
Symbole prononcé par les partisans de la Seconde République espagnole en lutte contre les rebelles nationalistes de Franco pendant la guerre civile espagnole de 1936 à 1939.
Après, on a un gros classique pour terminer que tout le monde a en tatouage de nos jours. C'est le fameux ACAB. Ah, ben voilà, premier tatouage, ACAB.
C'est la police.
ACAB, c'est la police. En anglais, ça veut dire « All coppers are bastards », soit tous les flics sont un peu des bâtards, quand même.
Et ce slogan, on peut dire maintenant ce terme, existe depuis les années 20 dans le milieu criminel et il critique les dirigeants.
Voilà, et après, il a été réutilisé dans les années 40, déjà en tatouage, beaucoup, mais aussi dans les grèves ouvrières, et comme plutôt une critique du système et de la police.
Message est clair.
Voilà, c'était la fin de notre chronique sur la manifestation. C'est important de manifester pour dire qu'on n'est pas content, et aussi pour faire du sport, parce que nous, les Français, on aime bien.
Oui.
Donc, il faut s'entraîner à notre sport national, et du coup, il faut aller manifester le 8 mars. En plus, c'est un dimanche. Pas d'excuses, pas de travail.
En espérant qu'il fasse beau.
Voilà. Donc, venez le 8 mars manifester avec nous pour la journée de lutte pour les droits des femmes.
Merci, Pauline.
Merci, Sophie. Merci, Sana.
Merci, Sana.
Je vous en prie. Moi, c'est moi qui vous remercie parce que là, j'ai appris plein de trucs.
Et ben voilà, on est là pour ça.
Et la chronique, comment elle s'appelle?
L'oreille de Vénus.
L'oreille.